Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Toute l'actualité nationale et internationale en un seul rendez-vous. Reportages, invités et informations pour suivre ce qui se passe ici et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Kapi, la radio de la paix. Ils tombent et succombent, parfois en pleine rue, sans secours. À Bounia, des cas aux symptômes inquiétants d'Ebola se multiplient. L'automédication pointée du doigt, la population appelée à la vigilance. Disparition en série à Massissi, des humanitaires portés introuvables, des familles plongées dans l'attente. L'inquiétude se transforme en angoisse. Les ONG dénoncent une situation devenue intenable. En vidéo du journal, Isaac Mastaki, il explique le programme Peace Education Fellowship qui forme des jeunes à la paix et au vivre ensemble à Goma. Des chutes soudaines de vie qui s'éteignent en pleine rue, Bounia sous le choc. Depuis quelques jours, dans le chef-lieu de la province de l'Ituri, des personnes présentant des symptômes du virus meurent dans les artères de la ville, parfois avant même toute intervention médicale. Vendredi dernier, dans le quartier Lumumba et Oho, plusieurs malades saignant du nez et de la bouche se sont effondrés au sol et ont succombé avant l'arrivée des équipes de riposte. Pour le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bounia, ces morts subites seraient liées à l'automédication. Il appelle la population à se rendre rapidement dans les structures de santé dès l'apparition de premiers signes afin de contenir la propagation de la maladie. Reportage Martial Kizabia Mungu.
À Bounia, des personnes malades transportées sur des motos ou marchant dans la rue de la ville tombent subitement avant de manifester des signes similaires à ceux de la maladie d'Ebola, notamment des saignements du nez, de la bouche ou les vomissements de sang. Les derniers cas s'est produit vendredi dernier au rond-point Kappa, au quartier Lumumba, où un enfant accompagné de son père sur une moto a manifesté des signes suspects d'Ebola. Puis de panique, les mototaxis s'est arrêté avant de prendre la fuite vers une destination inconnue. L'équipe de riposte est arrivée sur les lieux pour récupérer le cas suspect. Un cas qui n'est pas isolé. Au rond-point bilingue et dans les quartiers Oho et Ndibé, des situations similaires ont été également enregistrées, ce qui crée la psychose parmi la population. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bounia indique que c'est la conséquence de l'automédication. Le docteur John Kabtabuka.
Dès que les gens arrivent à tomber dans la route, cela veut dire que le message de la sensibilisation des malades de ce rendre directement à l'hôpital n'a pas été bien capté.
Pour une bonne prise en charge de cas suspects et des malades, un numéro vert est désormais disponible pour signaler ces genres de situations et prévenir ainsi toute propagation de la maladie dans la communauté. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Kinshasa, une autre urgence humaine se joue dans les silences. Près de 60 morts, c'est le bilan avancé par le déplacé du quartier Pakajuma. Aujourd'hui, relocalisé à Maluku, en cause, dénonce-t-il, des conditions de vie extrêmement précaires depuis leur installation en février dernier. Sur place, des installations sanitaires construites à la hâte et des abris de fortune faits de simples draps en guise de toiture. Des milliers de personnes vivent dans une promiscuité extrême, exposées à des multiples maladies. Face à cette situation alarmante, ces déplacés lancent un cri de détresse à l'État congolais, réclamant une assistance humanitaire urgente pour mettre fin à leur souffrance. Constat, Askenzi Biatayoro, il s'est rendu sur place, suivez son reportage.
Sur leur site, abri de fortune, insécurité et décès sont devenus le quotidien de ces déplacés de Pakajuma. Aux alentours de l'hôpital général de référence de Kiko, le CNPP, de bâches effilochées et des draps tendus à la hâte servent de refuge. Des toilettes remplies dégagent des odeurs nauséabondes pour la santé publique. Entassés sous des bâches, ces déplacés de Pakajuma disent vivre comme des sous-hommes et ne savent pas à quel sein se vouer. Mama Belinda Palangi témoigne.
On ne prend pas soin de nous depuis qu'on est logé ici. Nous faisons face à des maladies. Nous avons faim. Nous sommes fatigués. Nous souffrons beaucoup ici. Nous sommes dans notre propre pays, mais nous manquons la paix. Les gens meurent ici chaque jour.
En ce jour, ces déplacés internes disent totaliser 4 mois dans un site saturé où d'autres familles dorment même à la belle étoile sans aucune assistance. Il leur faut une solution digne, comme le dit Albert Tchikuna.
Nous demandons à ce qu'on nous fasse sortir d'ici. Si on nous donne l'argent, chacun pourra chercher sa parcelle pour y vivre dignement.
Selon le témoignage sur place, plusieurs déplacés qui ne peuvent plus tenir leur vie dans ces sites ont préféré regagner purement et simplement leur quartier Pakadjouma.
Autre inquiétude, et elle est lourde au Nord Kivu. En territoire de Masisi, des vies suspendues, des familles sont sans réponse. Une dizaine de personnes, dont 3 agents humanitaires, restent introuvables après leur arrestation ou détention présumée par des cadres de l'AFC M23 ces 10 derniers jours, selon plusieurs témoignages. Et l'inquiétude vire à l'angoisse. Dans un communiqué publié le 12 juin, l'ONG Conscience Féminine pour le droit et le développement redoute que certaines victimes aient déjà été exécutées. Sa coordonnatrice Nadia Nyamushia dénonce ces faits qui se répètent dans la région et fustige une situation devenue insupportable. Elle appelle les parties au conflit à respecter les civils et les règles du droit international humanitaire. On l'écoute.
Les cas les plus récents, M. Kita Ndailira, arrêté en date du 28 mars 2026. Jérôme Maeshe et M. Rodrigue Bukanga, arrêté en date du 3 juin 2026. Tous ces agents font partie des équipes locales de l'ONG Médecins Sans Frontières Belgique et ont tous été arrêtés en commune rurale de Masisi. Le sort de ces victimes inquiète davantage leurs familles respectives. Dans la soirée de ce mardi 9 juin 2026, 8 civils, dont une vieille femme habitant du village Kachon, ont été sommairement exécutés par les rebelles du M23 à Bukombo, secteur de Oso Bayungu. Leurs corps ne sont jusque-là pas encore mis à terre. Soulignons en outre qu'en mars dernier, d'autres acteurs humanitaires avaient été victimes de ces mêmes pratiques sur l'axe Mueso Kachuga. La CFDD RDC Asbel sollicite l'implication de toutes les instances afin que ces victimes retrouvent pleinement leur liberté et que cessent toute forme d'habits, voire de mesures contraignantes de non-répétition.
Nouveau comité, première décision forte à l'autorité des régulations de la sous-traitance. À peine en fonction, l'équipe Belechaï imprime déjà sa marque. Dans un communiqué parvenu ce lundi à Radio Okapi, elle annonce la suspension des missions de contrôle en cours à Kinshasa et dans plusieurs provinces du pays, notamment le Kasaï oriental, le Congo central, le Lualaba, le Haut-Katanga, le Haut-Touélé et le Tanganyika. Plus de détails dans ce papier signé Blaise Ndongala Mayonda.
Pour ce nouveau comité, seules les entreprises reprises dans l'ordre des missions à établir à la suite de cette décision feront l'objet d'un contrôle. Le nouveau directeur général de l'ARSP autorise ainsi les inspecteurs porteurs de l'ordre des missions dûment signé par la direction générale à demander la communication des états financiers des entreprises principales. Ces inspecteurs sont également invités à dresser des procès-verbaux des constatations qui en découlent après avoir transmis une feuille d'observation. À l'expiration des détails fixés pour la mission, le nouveau comité de gestion de l'ARSP procédera à une évaluation systématique des données récoltées entreprise par entreprise avec pour objectif de dégager des statistiques sur l'accès au marché de la sous-traitance pour les entreprises à capitaux majoritairement congolais. Par ailleurs, le comité Belechaï souhaite que les contrôles s'effacent plus de manière dispersée mais sur base d'ordre de missions précis, mutualisées et ciblées selon une cartographie des risques préalablement établie tout en promettant aux investisseurs étrangers un climat des affaires plus prévisibles.
16 juin, journée internationale de l'enfant africain, mais tous les enfants ne partent pas avec les mêmes chances. En RDC, les enfants malvoyants restent confrontés au manque d'écoles adaptées. Pour y remédier, l'association Voir avec le cœur appelle à intégrer l'écriture braille dans les systèmes éducatifs. Une intégration qui passe, selon elle, par la formation des enseignants des écoles classiques. Un pas essentiel pour faciliter l'accès à l'éducation à ces enfants. Écoutons Flavien Makaya, coordonnateur de l'association Voir avec le cœur, interrogé par John Tiboabois.
Pourquoi intégrer l'écriture braille dans les systèmes éducatifs congolais? C'est pour permettre aux enfants en situation de handicap visuel de pouvoir étudier dans les écoles ordinaires comme tous les autres enfants. Parce que étudier dans les écoles spécialisées, oui, mais ces écoles spécialisées ne sont pas si nombreuses à travers tous les pays. Cependant, nous avons estimé bon de pouvoir développer une stratégie pouvant permettre à tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap visuel, de bénéficier de l'éducation au même titre que tous les autres enfants à travers les écoles ordinaires. D'où pour y arriver, il faudra que l'écriture braille, étant une technique permettant aux enfants ou aux personnes malvoyantes et aveugles de pouvoir lire et écrire, de pouvoir bénéficier de cela à travers leur inclusion dans les écoles ordinaires. D'où pour y arriver, il faudra d'abord que les enseignants qui enseignent dans ces écoles-là, les enseignants voyants bien sûr, puissent être initiés ou capacités en usage de l'écriture braille.
La situation des enfants encore, mais cette fois au Kasaï oriental, et les images interpellent à Mbujimayi dans les allées de la morgue comme au cimetière. Des enfants parfois âgés de moins de 15 ans sont mobilisés pour animer les cérémonies d'inhumation. Une pratique qui choque et indigne une partie de la population. Pourquoi ces enfants se retrouvent-ils dans ces lieux sensibles? Qui veille sur eux? Éléments de réponse dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
À la morgue en Mbujimayi, ils sont là, instruments en main, certains à peine plus haut que leur trompette. Des enfants recrutés pour accompagner les familles en délire jusqu'au cimetière. Une présence qui choque de nombreux observateurs. Christelle Kamoigna explique.
Quand nous on était aussi enfants, quand on voyait les cercueils des gens, on nous disait non, non, quittez ici, allez-y entrer dans la maison.
Un enseignant, Joseph Kanyana, est même choqué de cette pratique.
Il est temps que les enfants sont à la morgue jusqu'au cimetière. Cependant, les heures des cours, commencer à jouer au tambour, ce qui n'est pas du tout normal. Les enfants doivent étudier.
Pour ces jeunes, la motivation est souvent économique. Quelques billets gagnés à chaque prestation dans une province où la pauvreté pousse les familles à accepter l'inacceptable. Marie-Claire Mouya, coordonnatrice de Marcel Gour, dénonce cette pratique.
Ce n'est pas un bon travail. On doit faire une sensibilisation à ces maisons-là qui utilisent les enfants. Au lieu que les enfants soient à l'école et utilisent les enfants pour un autre travail. Alors, nous disons non.
Pour François Mukendi, chef de division provinciale des affaires sociales, il s'agit de l'exploitation des enfants.
Il s'agit d'un cas d'exploitation à outrance des enfants. Alors, nous allons faire des investigations.
Les organisations de protection de l'enfance appellent les autorités, mais aussi les familles à protéger les enfants. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kananga, au Kasaï central, l'enfance se vit les pieds dans l'eau et loin des salles des classes. À la rivière Nganza, des enfants passent leur journée à laver des motos pour survivre. Une activité qui leur apporte quelques revenus, mais qui les éloigne donc de l'école. Beaucoup ne sont pas scolarisés et d'autres peinent à suivre leurs cours. Un constat signé André Katinde, Ngala Mouloumé.
À la rivière Nganza, des dizaines de motos sont stationnées. Parmi les laveurs de motos, on retrouve plusieurs enfants âgés de 11 à 17 ans. Ces derniers expliquent qu'ils exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Certains affirment avoir abandonné l'école faute des moyens financiers. D'autres qui poursuivent encore leurs études reconnaissent qu'ils n'ont plus que plus de temps pour réviser leurs leçons après les cours.
J'ai abandonné l'école faute de moyens financiers. Je lave ces motos pour subvenir à mes besoins. Je lave les motos pour gagner un peu d'argent. Je vais d'abord à l'école. Après les cours, je viens travailler ici.
Préoccupé par cette situation, les coordonnateurs de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lisadel, estime que cette situation compromet l'avenir de ses enfants. Jean-Malice Lungala plaide auprès du gouvernement provincial pour que des mesures soient prises afin que ses enfants retournent sur le banc de l'école.
Nous allons continuer à faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que ces enfants soient pris en charge et réintègrent l'école.
Jean-Malice Lungala appelle également le parent à plus de responsabilités. Kananga, André Katendengala Moulmé, Radio Okapi.
Le boom immobilier à Kinshasa transforme la ville mais fait disparaître peu à peu des espaces de vie essentiels pour les jeunes. Les terrains de football des quartiers, longtemps au cœur des loisirs et de la cohabitation sociale, cèdent progressivement la place à des constructions privées et des habitations. Autrefois animées par des tournois improvisés pendant la saison sèche et les vacances, ces espaces se font de plus en plus rares. Conséquence, les adolescents doivent désormais s'éloigner de leur quartier ou payer pour accéder à un terrain. À Djelo Binza, dans la commune d'Ingaliema, par exemple, les amateurs de football sont contraints de se rendre au terrain de l'Université Pédagogique Nationale avec de frais de location souvent jugés trop élevés. Plus de précisions dans ce reportage signé Ella Chimbalou.
Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, les constats est le même. Les terrains de football disparaissent progressivement alors que l'engouement des jeunes pour ce sport demeure intact. Mais le manque d'espace accessible complique de plus en plus la pratique.
À notre époque, les quartiers de Lubinza disposaient de plusieurs terrains de football où les jeunes se retrouvaient, surtout durant la saison sèche, pour jouer ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, presque tous ces terrains ont disparu.
À Kimbondo, dans cette localité de la commune de Mongafula, la situation reflète la même tendance. Les installations sportives deviennent insuffisantes face à la taille du quartier.
Dans notre quartier, il y a un terrain à Mater Dei, tellement que les quartiers sont trop grands par rapport au kilométrage. Les terrains sont un peu insuffisants. Par exemple, pour cette partie qu'on appelle Kimbondo, il n'y a qu'un seul terrain de foot.
Au terrain cimetière, toujours dans la commune de Mongafula, la transformation est encore plus visible. L'espace autrefois dédié au football a changé de vocation.
Aujourd'hui, au terrain cimetière, quartier Sepeyamouchi, on ne voit pas les jeunes pratiquer ces arts d'activité. S'ils jouent, ils jouent avec des épaves de camion. La cause, c'est la transformation de ces terrains par un parking.
Entre urbanisation rapide et disparition progressive des terrains de proximité, le football des quartiers s'efface peu à peu dans la capitale congolaise.
Actualité internationale.
Israël annonce qu'il restera pour une durée indéterminée dans les territoires qu'il occupe au Liban, en Syrie et à Gaza. Le ministre de la Défense Israël Katz a confirmé ce lundi 15 juin que cette présence militaire s'inscrit dans une stratégie de sécurité visant à protéger les frontières et les communautés israéliennes. Cette déclaration intervient dans un contexte diplomatique sensible alors qu'un protocole d'accord est en discussion entre les États-Unis et l'Iran avec une signature attendue en fin de semaine en Suisse sous médiation internationale. Sur le terrain, la situation reste tendue. Des frappes israéliennes ont récemment donc visé le sud du Liban et la banlieue de Beyrouth, faisant au moins 3 morts. De son côté, Téhéran pose une condition claire, l'arrêt des attaques israéliennes, notamment contre le Hezbollah, mouvement soutenu par l'Iran avant toute avancée vers un accord.
L'invité.
Notre invité dans ce journal, Isaac Mastaki, coordonnateur de l'ONG Most Inclusive Connect, MIC. Son organisation a clôturé le 5 juin dernier à Goma la première cohorte d'une formation axée sur la paix et la cohabitation pacifique. Pendant 3 mois, une vingtaine de jeunes filles et garçons ont pris part à cette initiative. Une formation organisée dans le cadre du programme Peace Education Fellowship, une bourse dédiée à l'éducation, à la paix et que déploie MIC depuis plusieurs mois. Que retenir de ce programme et quel impact sur les bénéficiaires? Réponse dans cet entretien avec Isaac Mastaki, réalisé par Bernard Danyangé.
Monsieur Isaac Mastaki, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Parlez-nous d'abord du programme Peace Education Fellowship.
Peace Education Fellowship, c'est un programme d'orientation MIC RDC, Most Inclusive Connect, qui offre les jeunes et les femmes un cadre d'éducation à la paix et aussi au leadership et à l'engagement civique.
Dans le cadre de ce programme, vous avez clôturé une formation sur l'éducation à la paix. À quoi consistait exactement la formation?
Nous avons fait notre première cohorte pendant 3 mois. Depuis le mois de mars, nous avons eu à sélectionner 20 jeunes et femmes que nous avons eu accompagnés pendant les 3 mois sur l'éducation à la paix. Et le module que nous avons développé premièrement sur les conflits, la violence et la paix. On a développé le module sur les numériques et les médias pour la promotion de la paix. On a développé le module sur jeunesse et sécurité, mais également le module qui porte sur l'engagement communautaire puis la cohésion sociale. Et ce programme, c'est un programme qui est centré à accompagner les jeunes, au moins 100 jeunes par année, pour leur donner un espace d'équipement, un espace d'autonomisation, ce qui concerne avec la paix.
Vous sélectionnez ces personnes sur base de quoi? Est-ce qu'il y a certains critères?
Premièrement, nous faisons d'abord un appel aux jeunes, tout le monde sans distinction, et aux femmes, bien sûr, limitées par un âge de 35 ans. Et les gens postulent. Pour la première course, nous avons eu à avoir 70 candidatures, mais on a retenu seulement 20 jeunes suite aux moyens qui étaient limités parce que les programmes toujours autofinancés. Et là, c'était un cadre que nous sommes en train de voir, les jeunes qui sont engagés pour la paix et qui sont capables aussi d'être agents de la paix dans leur communauté.
Est-ce qu'il y a une certaine mission qui est donnée à vos formés ou les personnes qui bénéficient de votre formation?
Premièrement, ils sont en mesure de faire des clubs de paix dans leur communauté. Ça veut dire que chaque quartier, nous nous rassurons que premièrement, chaque quartier a été touché, chaque commune. Et quand ils rentrent, eux aussi, ils partent aussi pour former des clubs de paix, ils deviennent des points focaux dans leur quartier. Mais également, à la fin de la formation, nous faisons toujours un projet de la paix qu'eux-mêmes vont concevoir et puis ils vont aussi nous proposer. Et ensemble, nous continuons les activités de la paix et des cohésions sociales dans les quartiers de la ville.
Et quel est le mobile en fait derrière tout ça? Pourquoi vous avez initié un tel programme?
En fait, suite à la situation que nous sommes en train de vivre dans notre région, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est d'abord à faire apprendre aussi les autres jeunes qui jadis sont des victimes de conflits et en les transformant et devenir acteurs de paix. Et pour le faire, l'unique motivation qui nous pousse, c'est voir les changements, que nous ne puissions pas penser qu'il y a seulement la guerre, il y a aussi la paix. Et c'est ça qui nous motive, c'est faire vraiment accompagner les jeunes, donner vraiment les jeunes les moyens possibles pour qu'ils puissent venir, pas acteurs, je peux dire, de violence, mais acteurs de changement. Et c'est pourquoi on cible les jeunes, parce que le changement commence dès toujours les bas âges. Et nous sommes en train de voir que les jeunes sont engagés pour la paix. Et là, nous serons en train de prévenir même de certaines violences, parce que quand on est déjà outillé, on connaît déjà. Les jeunes aussi peuvent aussi s'engager, même de son côté, pour pas être seulement promoteur de source de conflit, mais aussi être la paix. Là où il est, quand on lui voit, il est la paix.
Et la finalité sera quoi? Vous voulez poursuivre ces formations pour atteindre combien de personnes formées? Et cela va prendre combien de temps?
Nous avons fini d'abord notre première cohorte qui a fait 3 mois. Et 3 mois, nous avons collaboré avec Media Soma Lab. Nous avons comme Hurnology Center. Mais ça n'est pas suffisant pour que nous puissions faire notre accompagnement. L'objectif est que nous puissions atteindre au moins 100 jeunes, que nous puissions accompagner 100 jeunes qui sont toujours formés et puissent bénéficier chaque année. Les 100 jeunes, nous les prenons en termes d'abord des trimestres parce qu'on n'a pas les moyens jusqu'à présent. Ce sont toujours par les moyens de bord que nous sommes en train de faire. Alors, chaque 3 mois, on accompagne d'abord 20 jeunes par cohorte. Et l'objectif est qu'au moins chaque avenir, nous avons un acteur de paix. Pas seulement David de Goma, parce que nous visons aussi même toucher même la région des Grands Lacs. Si une fois, j'ai dit, on peut être informé, invité dans les autres régions pour la paix, pourquoi aussi ne pas inviter ces jeunes qui sont peut-être dans les régions Burundi et autres pays comme voisins pour venir aussi apprendre la paix et savoir aussi qu'il y a aussi des acteurs qui sont engagés pour la paix dans notre communauté, quoi qu'on peut parler de conflit, mais s'il y a aussi la paix.
Monsieur Mastaki, merci.
Merci beaucoup, merci Bernabé.
Isaac Mastaki, coordonnateur de l'ONG Most Inclusive Connect sur cette formation dédiée à la paix à Goma, un entretien réalisé par Bernard Denyangi. Ainsi s'achève la grande édition des 18h sur Radio Okapi. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, mise en onde assurée par Dieudonné Nyangassa, supervision Alain Hirong, coordination Élisée Chikota. Retrouvez toutes nos informations en détail sur notre site internet www.radiookapi.net ainsi que sur nos différentes plateforme digitale. Radio Okapi, la radio de la paix, vous accompagne à tout moment. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour la suite de nos programmes.